Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Vivante Église. Au micro pour intervenant, vous allez entendre Georges Delory. Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous proposer une prière, vous en rappelez peut-être pas, vous me l'avez envoyée parce que nous avons préparé aussi cette émission et puis quelques rencontres. Je vais la lire et ça sera l'introduction de ce Vivante Église. Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie, simples, amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, ou à la fois libre et obéissant, spontané et tenace, doux et fort. Dieu, envoie-nous des fous. C'est la prière d'un inconnu que vous m'avez partagée, puisque nous avons préparé cette émission du jour par écrit. Je l'ai retenue, je l'ai gardée. Georges Delory, elle est magnifique. Elle vous parle, à vous, on va vous entendre au fil de cette émission, des addictions à la mission, c'est le titre. On va parler tout d'abord de la mission. Envoie-nous des fous qui s'engagent, qui se donnent pour de vrai jusqu'au bout, des fous déraisonnables et des passionnés. Ça donne un écho chez vous ?
Tout à fait. Dans le cadre de la mission, je pense qu'il faut savoir et être prêt, déjà être pris pour un fou, mais surtout être ce genre de fou, cette sainte folie, on va dire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que dans les cieux, moi j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a aucune limite. Dans les choses du monde, il y a des limites, mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas de limite. Donc à cette folie de partir en mission et de vraiment se donner tout entier avec cette saine passion déraisonnable et ce sens qu'on trouve à la mission, un sens profond, une joie profonde et une autre vision de la vie que celle qu'on nous propose. La mission, c'est déjà savoir être surpris, pas s'y attendre, mais du moins être prêt à être surpris, s'attendre à l'inconnu et être prêt un peu parfois être dérangé un petit peu dans notre mode de vie. D'où là cette sainte folie de se donner vraiment tout entier dans la mission et d'y faire notre vie au final. C'est accepter également d'être différent, c'est-à-dire d'avoir parfois des paroles que les gens n'entendraient pas dans le monde, d'avoir un mode de pensée différent et de se dire que l'impossible est possible et finalement avancer dans cette voie-là sans baisser les bras et sans retourner en arrière. Alors quand je dis sans baisser les bras, c'est parce qu'il faut s'attendre à ce que les gens disent là c'est pas possible ce que tu... Ça, c'est impossible. Ça, c'est non. Là, tu vas dans un chemin risqué où tu te fais des rêves, des illusions, des trucs comme ça. Il y a une parole biblique qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Je crois que c'est vraiment l'objectif. La mission, c'est ça. Tout est possible à celui qui croit. Il ne faut pas croire que ça va être impossible parce que parfois, Dieu, il va nous envoyer des émotions dans le cœur qui sont assez étonnantes. Où on se dit « Non, ça, je ne peux pas faire ». Mais avec une telle confiance en Dieu, on peut que faire confiance. On peut pas se dire non, là ce que tu me dis, Dieu, c'est pas possible. Je pense que je sais mieux ma vie que toi, Seigneur. Ça, c'est des trucs. Je me suis déjà dit ça parfois. Et quand j'ai eu la motion d'écrire quelque chose, d'écrire un livre, déjà je me suis dit dans mon cœur, non, ça je vais pas le faire, c'est hors de moi. Hein, faut savoir, il y a 10 ans, je ne savais même pas écrire presque français, quoi. Donc ce genre de choses, je me dis, c'est pas possible. Aller voir des inconnus dans la rue, ça je le faisais, mais au début je me disais, c'est impossible. Et pourtant je l'ai fait. Donc dans la mission, il faut savoir vraiment être fou. Mais cette sainte folie, c'est pas la folie qui va nous conduire à la perdition et nous conduire vers le bas. C'est la sainte folie qui va nous rapprocher de Dieu.
Et du royaume de Dieu, au fond. Royaume hein, de c'est Dieu. Ça. Hein.
Je pense que...
Dans ce monde qui est un peu fou, hein, où il y a la confusion...
Il faut savoir être encore plus
voilà,
fou.
Voilà, il faut être encore plus fou. Vous l'êtes un petit peu, et puis l'auditeur qui va vous découvrir dans cette prochaine partie d'émission avec votre propre témoignage. Mais je tenais ces premières minutes de Vivante Église à faire entendre la parole d'un homme de 28 ans qui... Et vous suivez donc une formation de théologie. Donc, vous avez aussi lu la Bible, vous avez aussi vécu ce baptême le 31 mars 2024. Donc, il y a eu un cheminement de votre part. Il faut être un petit peu fou aujourd'hui pour partir en mission. Et je pense, dans nos quartiers aujourd'hui, où la violence est omniprésente et qui peut toucher aussi des préadolescents, voire des adolescents, des très jeunes. Vous avez connu cette violence. Vous êtes un peu fou pour aller dans ces quartiers témoigner. Est-ce qu'on peut vous écouter ?
Cette sainte folie, bah, tout à fait. Je pense que c'est un... Déjà, il y a des risques, on se dit. Et surtout, peut-être quelque chose qu'on ne ferait pas, généralement. Donc, quand je vais dans un quartier, parfois, ça m'arrive, je vais voir une personne et je vais lui dire, tu sais que le Seigneur, il t'aime, quoi. Et ça arrive, parfois je vais l'y prendre différemment, mais déjà aller à la rencontre de quelqu'un et lui dire, tu sais que t'as une vie merveilleuse, je suis sûr que t'es appelé à quelque chose de bon, ou même avoir une discussion philosophique comme ça avec un parfait inconnu, un peu déranger le quotidien et sortir du schéma de mode de fonctionnement du monde et de cette société, c'est quand même avancer déjà un petit peu dans cette sainte folie qui est... d'entrer dans un autre mode de pensée et même, j'ai envie de dire, d'avancer dans la spiritualité et non plus dans le physique. Donc quand j'arrive dans un quartier comme ça, je vais voir quelqu'un et je commence à avoir une discussion avec lui et directement, il y a une atmosphère spirituelle qui va se créer. C'est-à-dire que je ne vais pas entrer dans le mode où on va rester dans le monde, quoi. En mode, ouais, bah, c'est vrai que c'est difficile, hein, l'addiction. Comment on va faire ? Je suis sûr que tu peux t'en sortir. Il y a aussi les... directement atmosphère spirituelle.
Alors qu'est-ce que vous entendez, permettez-moi, Georges Delory, par créer une atmosphère spirituelle On n'est pas dans les énergies, on n'est pas dans un mouvement aussi de nouvel âge, permettez-moi, parce qu'aujourd'hui, l'énergie est de partout, positive ou négative.
Non, ça c'est...
Là,
c'est
encore sur les rails.
Un autre...
Est-ce que vous pouvez donc nous décrire ce que vous entendez par une atmosphère spirituelle,
c'est-à-dire qu'on va mettre directement Jésus au centre. On va mettre directement les enseignements de Jésus au centre. Pas en plombant la personne de versets et tout ça, mais en vivant comme le Seigneur nous le dit. Et ça, on l'a de toute manière quand on se confie à lui et qu'on lui donne notre vie. On va rencontrer quelqu'un, atmosphère spirituelle,
donc,
on va mettre
le
Seigneur au centre.
On est dans des quartiers difficiles, certes, mais dans le temps de l'évangélisation.
Tout à fait.
L'évangélisation de rue, directe.
Tout à fait.
C'est ça.
Et c'est incroyable que... De se rendre compte que parfois il y a des personnes qui nous demandent la prière, qui nous demandent de prier sur eux directement dans la rue comme ça, ou des moments où on va avoir une parole qui va nous sortir pour quelqu'un. Sans le connaître, on va déjà le connaître. Et je crois que le Seigneur nous permet ça en ce moment. Mais surtout.
Donc là, vous parlez de développer un peu les charismes ?
Tout à fait.
Du baptisé.
Alors sans les mettre au centre.
Permettez-moi, on n'est pas dans la médiumité, oui. on n'est pas dans la voyance. C'est important aussi de préciser. Hein, parce que...
C'est quelque chose de totalement différent. Là. Tout ce qui est voyance, médiumnité, c'est des choses qu'au final on contrôle. C'est quelque chose où on va avoir une emprise dessus. Et, et on va vouloir même se faire Dieu nous-mêmes. Bref, ça c'est vraiment un gros discernement à faire là-dessus, une attention particulière, magnétisme, voyance, faire passer le feu pour la guérison, le je ne sais pas quoi, je m'y connais pas non plus des masses, mais le New Age, tout ça je fais gaffe, j'évite. Et d'ailleurs j'ai déjà discuté avec ces personnes-là du New Age dans des boutiques directement, et moi souvent ce qui m'a rapporté c'est je pense qu'il y a, quelque chose qui est supérieur à nous, qui est au-dessus de nous, mais je sais pas trop ce que c'est quoi. Bah moi je le sais, c'est Jésus. Et en fait il y a une profonde une incertitude dans ce genre de domaine. Enfin voilà, ça c'est encore une autre discussion. En tout cas, ce que nous on sait, c'est que Jésus est là, présent, et qu'en fait on n'est pas là à se disperser dans les ouais, mais peut-être que non, on évite de perdre notre temps. Et là, on est vraiment dans ces temps où finalement les enseignements de Jésus sont primordiaux, où on va pouvoir aborder ce genre de sujet sans balancer des versets, mais en suivant les enseignements du Christ dans notre vie. C'est ça la folie pour moi. La folie, c'est vraiment suivre les enseignements du Christ dans notre vie, parce que quand on lit la Bible, on se rend compte que c'est pas compatible du tout à notre mode de fonctionnement aujourd'hui, quoi. Et même la joie est quelque chose de, qu'on nous demande pas dans le monde d'aujourd'hui. Quelqu'un de joyeux alors qu'il pleut, qu'il y a des problèmes partout, c'est un peu dérangeant, quoi. On dit, mais pourquoi cette personne est sourie? C'est bizarre, quoi. Pourquoi? C'est très différent de ce qu'on... Pour moi, cette sainte folie, c'est ça, c'est suivre les enseignements du Christ et les appliquer.
Au fond, vous nous vous rappelez aussi comme au temps des premiers apôtres, hein, d'un Pierre, d'un Paul.
C'est un peu ça.
Ouais.
Alors, moi, ce que je m'en rends compte, c'est ça, c'est avec les personnes avec qui je missionne, il y a comme un retour aux premiers chrétiens. Et ça, c'est étonnant. C'est ça. Des personnes qui vont dans les rues comme ça, qui témoignent de l'évangile. Alors parfois il y en a, ils font en public comme ça, moi c'est pas trop mon truc. D'autres, ils vont rencontrer les gens, mais avec cette incapacité de finalement de s'en détacher. Et comme quelque chose qui est au fond de nous en fait, on peut plus nous l'enlever. C'est un mode de vie. Et dans, il y a des personnes comme ça que je connais qui vivent comme ça. À se balader en France. Il y en a un, il veut vivre en van, carrément. Enfin, vivre en van et évangéliser un petit peu dans toutes les villes. Et c'est incroyable. On se dit, on est vraiment dans une époque particulièrement bénie. Hein. Pour sortir du « ouais, il y a des guerres, il y a ceci, il y a cela », moi, je pense qu'on est vraiment dans une époque bénie. Dans mon cas, c'est impossible que je vais quelque part sans parler de Jésus, sans faire une rencontre, sans parfois aléatoire. Là, à Lourdes...
Vous êtes, oui, de passage à Lourdes et vous venez de faire aussi.
J'ai rencontré des personnes comme ça, soit qui sont venues me parler, soit je vais leur parler et paf, c'est plus fort que moi. Et c'est cette génération finalement qui commence à renaître. On dit que l'Église est en train de renaître. Ben, je pense que les personnes maintenant qui commencent à se tourner vers Dieu et qui ont trouvé leur sens avec Dieu, qu'on soit été sauvés physiquement, spirituellement, ou même qui viennent d'un autre parcours, même qui viennent de familles traditionnelles catholiques ou qui ont eu un parcours plus classique, qui commencent à se rassembler autour du Seigneur pour missionner, c'est juste incroyable. Donc on vit cette période-là en ce moment. Moi, j'ai envie de dire amen.
Cette époque, hein, puisque vous parlez de cette époque, on parle d'évangélisation, d'annoncer Jésus à temps et à contre-temps, de partir sur les routes. Hein. Vous avez des amis aussi qui répondent apparemment à cet appel, un peu de folie. Faut-il des fous de Dieu aujourd'hui qui se réveillent, qui se mettent debout dans une période un peu de chaos planétaire et de, tout, de l'ensemble de l'humanité? On entend au fond, vous avez 28 ans, Georges Delory,
oui.
Vous êtes dans ce monde un rescapé, et nous le verrons un peu plus tard, mais on entend la joie et l'espérance. Hein. Ce monde ne vous effraie pas du tout.
Non, du tout. Déjà parce qu'il y a des prophéties qui sont très belles au sujet de ce monde. Et parce qu'en fait, je me raccroche
parfois
à
parfois, des prophéties, permettez-moi, à vérifier, hein, parce qu'il y a aussi les vraies et fausses prophéties, les vrais et les faux prophètes. Hein, donc, toujours de la prudence. Hein, voilà, il faut discerner. Voilà. Continuez.
Je ne vais pas évoquer tout ça, mais il faut toujours discerner et voir. Voilà. On entend beaucoup de bêtises en ce moment, les faux enseignements, les fausses prophéties. Bref. Et le fait est de se raccrocher à la parole de Dieu, moi, ça ne m'inquiète même pas l'état du monde. Je me dis même que finalement, ça a été écrit. Donc, c'est très beau hein, quand on lit la Bible et qu'on voit vers la fin « Viens, Seigneur Jésus ».
Maranatha, oui.
C'est au final, moi je me dis c'est beau. Donc tout ce qui se passe, ça répond aux prophéties bibliques. Donc je me dis, rien à craindre. Même si, je sais pas, je regarde pas trop les infos, mais même si les infos nous disent plus de nous angoisser, d'avoir peur, le climat de peur, moi j'écoute pas ça. Et je me dis, gardez l'espérance, gardez la joie, gardez cette paix. Et je pense que particulièrement dans la folie, ça me vient maintenant, dans la folie qu'on devrait développer, et c'est un degré de confiance en Dieu plus profond, et donc de ne plus avoir peur. Que ce soit dans les quartiers, que ce soit ailleurs, hein, je signale qu'il y a des personnes qui partent à l'étranger dans des pays en guerre pour évangéliser, hein, et que ces personnes, parfois il y en a qui meurent. Hein. Au péril de leur vie, ils vont annoncer le Christ, et même au péril de leur vie, qui vont avoir cette confiance en Dieu, de se dire bah écoute, de toute manière j'ai une destinée, mais ça c'est ce qui commence à arriver en France quand on voit des personnes qui vont dans des quartiers ou qui vont en public hein, comme ça, témoigner du Christ sans se dire, bah il y a peut-être quelqu'un qui va appeler la police, on va peut-être me traiter de fou, je vais peut-être perdre ma réputation de personne normale, on va me prendre pour quelqu'un bizarre, et bah il y a cette peur qui disparaît. Pour moi c'est important qu'il n'y ait plus de peur pour missionner. La peur, quand je vais dans un quartier, je ne vais pas me dire, je vais peut-être me faire fusiller, quoi. Ça ne m'est jamais arrivé, mais...
Vous ne craignez jamais quand vous partez dans un quartier difficile, violent, jamais?
Alors ça
parce qu'on entend la confiance, n'a pas de limite, elle est illimitée hein, chez vous.
Et ça va au point où je me dis, mais si Dieu il m'appelle à être martyr, je rends grâce, parce que c'est une belle grâce. Mais j'ai pas peur de me faire finalement persécuter. Si ça doit être ma destinée, si je dois être un martyr, je rends grâce. Si je ne dois pas l'être, je rends grâce. En toute situation, en fait, je rends grâce. Ça m'est arrivé parfois que j'ai reçu des insultes ou des trucs pas très gentils. Mais je rends grâce pour ces personnes, je les bénis. Et moi-même, ça m'a éprouvé et peut-être même repoussé mes limites, en fait. Donc vraiment, accepter et avoir confiance dans toutes les situations.
Alors vous avez été baptisé le 31 mars 2024, donc vous êtes un tout jeune baptisé et déjà sur les routes, déjà en mission, et en mission dans des lieux et des quartiers compliqués. Rien ne vous arrête aujourd'hui dans la mission, Georges. Est-ce que c'est un réveil pour vous? Est-ce que ça dit aussi le réveil d'une France, d'une génération de jeunes qui ouvrent cette porte du cœur comme vous avez laissé cette porte du cœur s'ouvrir? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes témoin de quoi dans ce réveil de la France?
Un réveil déjà personnel. Et je sais pas, comme ça l'image qu'en fait, il y a des gens, ils vont tomber, et petit à petit, le Seigneur va en repêcher, une par une. Et ça, c'est incroyable. Pour moi, c'est ça le réveil qui arrive et qu'on voit de plus en plus. Telle personne s'est convertie, telle personne, on en voit de tous les milieux en ce moment. C'est le réveil qui commence à arriver. C'est-à-dire que toutes les personnes là qui les enfants prodigues, les fils prodigues là, repêchés une à une. Chacun vit son réveil personnel à sa façon, avec sa manière d'être, de ce qu'il est. Mais le Seigneur commence à repêcher vraiment ce monde qui devenait un peu perdu finalement. Et on se rend compte que peut-être que finalement Dieu il était présent et qu'on avait peut-être besoin de lui au final. Et le réveil de la France, ça va être ça. Alors ça va peut-être pas être quelque chose d'un coup comme ça. Ça, c'est ce que je croyais au début. Bizarrement, c'est étape par étape, des personnes qui sont repêchées d'un peu partout, qui vont commencer à missionner dans tous les endroits de France, en fait, dans des parcours, dans des domaines différents. Je ne saurais pas comment expliquer ça, mais dans tous les milieux, en fait.
Alors vous, c'est un peu le milieu des quartiers difficiles, particulièrement où règne au fond des trafiquants aussi. C'est un peu la mafia, hein, vous n'avez pas peur. Je vais vous proposer dans ce Vivante Église une pause musicale, Georges Delery, des addictions à la mission. Nous avons commencé un peu par ce parcours un peu de missionnaire où il faut peut-être pour aujourd'hui, dans ce troisième millénaire, beaucoup de folie pour répondre à la mission d'évangélisation. Évangélisateur, et on vous retrouve dans votre parcours et votre histoire, puisque vous avez été quelque peu vous-même repêché. À tout de suite.
Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce Vivante Église avec, pour intervenant, Georges Delery. Bonjour Georges.
Bonjour.
Alors vous avez 28 ans, vous avez reçu le baptême le 31 mars 2024. Si on devait refaire un peu, presque un peu, le parcours de votre histoire, avant votre conversion, vous avez eu presque toutes les dépendances, hein, dépendance à l'alcool.
J'ai cumulé la collection.
Voilà, aux drogues, vous avez été aussi dans le banditisme, le trafic. Voilà, de nombreuses dépendances, et aujourd'hui vous êtes ce baptisé qui répondait aussi à cette mission de baptisé, prophète, roi et missionnaire dans ce monde et puis dans ce pays, cette France, hein, cette France qui a peut-être besoin de retrouver ses racines chrétiennes. Donc n'ayons pas peur, c'est ce que nous avons entendu, de devenir des évangélisateurs. Alors racontez-nous, ça va en surprendre plus d'un, racontez-nous un peu ce parcours des addictions qui font qu'aujourd'hui vous êtes aussi un missionnaire, mais vous revenez de l'enfer. Permettez-moi, je connais votre témoignage, c'est une spirale infernale de solitude, de désespérance. On vous écoute et merci de votre témoignage.
Donc, au niveau des addictions et finalement de cette perte de sens et de cette mort, hein, j'ai commencé le cannabis très jeune, donc vers l'âge de 13 ans peut-être, aux alentours, et puis la cocaïne. Donc voilà, je me cachais... Je me cachais pour consommer, quoique pas si caché que ça, parce qu'on m'a appris que ça se voyait. Hein. Mais bon, pour moi, je me cachais et je me disais, personne n'est au courant. Bon, ça se voit apparemment sur l'attitude. Et au final, bah, à 17 ans, j'ai commencé l'alcool à l'excès. Et j'étais, je tournais très rapidement vers 18-19 ans, aux alentours de... Je saurais même pas dire, parce que je sais pas ce que je buvais exactement. Mais à l'excès, c'est-à-dire peut-être 8 pierres extra fortes par jour. Donc extra fortes, je parle de 11 degrés, hein, des bières bas de gamme. Ou alors peut-être une ou deux bouteilles de vodka, voire plus, ça dépend. En fait, je consommais tant que j'étais debout, en fait. On me retrouvait parfois à dormir sur des bancs, dans des fossés, un peu partout, genre une perte de connaissance au final, et parfois suivi d'un coma éthylique, de bad trip, de délirium tremens, ou de toutes sortes d'expériences qui sont assez désagréables. Donc la consommation également du crack qui a été faite et dont les redescentes sont très rapides. Donc le risque de délire est très élevé. Et donc c'est ce schéma répétitif de je consomme, je me sens bien. Et puis je redescends, je me sens mal, je reconsomme. Et plus ça va, plus on se sent mal. Et au final... on est dans un mal quotidien permanent qui ne s'arrête pas, en fait. La consommation étant juste pour diminuer un peu ce mal qu'on voudrait éviter, mais qu'on ne peut plus éviter, prise au piège, on va dire, par l'obscurité, mais même l'enfer. Ces dépendances, en fait, faisaient que s'aggraver. Et j'étais dans un schéma d'aller-retour à l'hôpital, finalement, qui était continuel.
Et puis vous avez fait plusieurs séjours à l'hôpital.
Ouais.
Et près d'une centaine, je crois.
Ouais, hein? Près d'une... C'était pas mal. Donc en fait, je suis assez connu de
l'hôpital. Vous avez cherché à battre des records, un record
c'est
hospitalisation, c'est ça.
Mais c'est incroyable, parce qu'on voit toujours les mêmes têtes. Hein. Quand on y va souvent, on va dire, on voit beaucoup des têtes connues et on finit par se connaître. J'entendais des phrases telles que « notre grande maison » ou des choses comme ça. Donc des personnes qui plaisantaient, mais il y avait des révélations, quoi. C'est-à-dire que ces personnes disaient quelque part la vérité, c'est notre grande maison. On y retourne, on revient, on ressort, on revient et c'est triste parce qu'on voit vraiment la détérioration de notre état. Et parfois, moi, je voyais même mon reflet, finalement, le reflet que plus on y retournait, plus on était dans un état critique, donc on se voyait mourir, en fait. Parfois on avait l'impression d'aller dans un abattoir, on se faisait charcuter, enfin voilà, plus ça allait, plus on allait bas. On sortait, j'avais vraiment des perfusions à chaque fois, donc j'avais des piqûres un peu partout. Et parfois, on cherchait ma veine, quoi, donc une veine qui était potable. Donc c'est ce qui nous conduit à, cette fois, une folie assez malsaine. Donc la cure des désintoxications, puis les sevrages simples, ce qu'on appelle, qui sont pareils des cures, et à la psychiatrie. Pour les plus loin...
Vous avez fait vous-même deux séjours en psychiatrie? Vous vous rappelez de ce passage en psychiatrie?
J'ai fait un passage assez lourd. Un mois en psychiatrie, encore c'est pas beaucoup un mois, parce que parfois on peut y rester 6 mois ou plus. Et ce moment où je me réveillais comme ça, je vois genre des barreaux déjà. Faut savoir que j'étais aux urgences, on me met un truc dans mon verre. Je bois comme si c'était de l'eau et je m'endors. Donc voilà, on se réveille sur un lit d'hôpital. On voit des barreaux, donc je me disais, je suis où? Je suis dans une prison. J'étais encore en effet hallucinatoire. Donc je me disais, où je suis, quoi. C'est assez traumatisant à vivre. On ne sait pas trop où on est. J'avais l'impression d'être dans un film. Je me souviens d'une personne, c'était un... PNJ, un PNJ, c'est un peu un truc personnage de jeu vidéo qui est inanime, enfin, qui est contrôlé par l'ordinateur. Et je me disais, mais c'est un PNJ ou un personnage de film qui me dit t'es ici parce que t'as fait des bêtises, avec un accent. Et je me dis, mais je suis atterri où, quoi? Donc c'est assez traumatisant, cette expérience de surmédicament, je sais pas comment dire. Où on devient des zombies, des véritables zombies. On n'a plus de confiance, de confiance aussi. Hein. Et on est comme contrôlé par la médication.
Quelque part un peu mort-vivant. Hein.
Mort-vivant, ouais. C'est complètement ça. Plus aucune envie, plus aucune conscience.
Rien à voir avec la première partie de cette émission.
Hein. Ah non. Ouais. Non, non, plus rien. Là, c'était vraiment... C'est le bout du bout. Hein. C'est, et même, hein, même dans le moment de, de ma conversion, j'avais cette hospitalisation comme ça. Et on voit... alors, ce qui est marrant, c'est qu'après ma conversion, j'ai eu encore une phase où j'étais en psychiatrie suite à un gros sevrage. La différence entre ce moment, c'est que j'avais déjà l'espoir. J'avais plus d'idées suicidaires. Et j'ai eu un moment dans en hôpital psy comme ça, où je me suis mis à parler de Dieu aux patients, aux infirmières, à prier pour eux. On me demandait aussi des prières et tout ça. L'aspect avait totalement changé. Ce qui fait que j'ai, sans me rendre compte, missionné à l'intérieur de psychiatrie. Et j'ai vu également le besoin qu'il y avait à l'intérieur.
Alors, on entend aussi dans la première partie de ce Vivante Église combien la mission est importante aujourd'hui pour
reviens.
Vous. Hein. Voilà, on ne perd pas de vue, mais c'est important aussi de faire découvrir aux auditeurs aussi d'où vous venez. Et vous revenez de très loin, vous êtes un miraculé et un rescapé de ces ténèbres de l'enfer, spirale infernale où vous rechutez, ces rechutes sur rechutes, les produits, que ce soit là, interminables. Et jusqu'au jour où on peut parler de délivrance, décembre 2020, au fond, le bon Dieu a véritablement un plan pour vous. Alors, cet épisode, au fond, de plan et de résurrection, très vite, dans ces quelques dernières minutes, racontez-nous. Ouais. C'est un peu l'exploit. Hein.
Donc,
c'est un retour à la vie en vue de la mission. Hein.
Tout voilà. À fait. C'est vraiment cette résurrection.
Les addictions à la mission, c'est le titre de ce Vivante Église.
Et donc, cure des désintoxications, décembre 2020, quelqu'un me dit que le Seigneur a un plan pour moi et qu'il m'appelle. Je peux dire son nom parce qu'elle m'a autorisé à le dire. C'est Christine, qui est devenue ma marraine maintenant.
Marraine de baptême. Hein
et ouais. Excellente, elle est géniale. Un cœur.
Un ange gardien sur votre route.
C'est ça. Je crois que Dieu l'a placée sur ma route. Et décembre 2020, je lui demande un chapelet. Je prends une Bible. 4 mois plus tard, une explosion de joie. C'est-à-dire, Dieu débarque dans mon cœur. Et après avoir crié vers lui, me fait prendre un autre chemin inverse de ce que je prenais. Et de la destruction personnelle vient la construction d'une nouvelle vie, avec comme un ciel qui s'éclaircit en fait. Et ce chemin en fait m'a permis de finalement accepter le Christ en fait m'a permis actuellement d'être étudiant, d'avoir des projets, de me projeter, d'être joyeux, de plus avoir ces idées noires et même de faire le bien autour de moi et de même voir des sourires sur le visage des gens.
Parce que vous avez été suicidaire.
Ouais,
à plusieurs reprises. Vous avez été aussi très violent.
Ouais. Et c'est dingue de passer finalement du fait que je faisais pleurer les gens et que je leur faisais du mal à que maintenant les gens ont un sourire et d'apporter la bonne nouvelle plutôt que d'apporter la mort autour de soi. Et je précise la mort, hein, la mort je la portais autour de moi, je vendais la mort, je disais des paroles de mort, je la commettais aussi avec mes actes de bagarre, de violence envers mes propres parents. Où maintenant j'apporte la bonne nouvelle et autour de moi ce que je vois et ce que je m'en rends compte de l'extérieur, c'est que j'ai des retours positifs. Et je me dis mais waouh. Et ça, au début, c'était un truc que j'avais pas l'habitude, quoi. Voir les gens avoir des retours positifs et se dire merci, j'en ai jamais eu de ma vie, quoi. Et ça m'a choqué.
Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de providence, vous parlez de confiance, vous parlez aussi de... Alors, la prière aussi, hein, faire l'expérience de la prière, hein, c'est aussi pour vous capital. Hein, voilà, vous m'écriviez la providence, une question de confiance. Et vous me citiez aussi par écrit cette parole qu'on retrouve dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, très importante pour vous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît, cette providence du bon Dieu. vous en faites l'expérience et vous en témoignez tout autour de vous. Tout est possible. Rien n'est impossible pour vous aujourd'hui. Parce que vous êtes un rescapé, un grand miraculé de ces ténèbres.
On va dire que Dieu a ouvert toutes les frontières. Et c'est vrai que la vie, je la vois d'une manière différente. L'impossible, en fait, ça, pour moi, ça, c'est plus dans mon vocabulaire, on va dire. Et là où Dieu m'appelle, j'avance sans me poser cette question de peut-être pas, je sais pas, ou les limites. Et ça, c'est magnifique avec l'expérience de Dieu. Dieu, il ouvre toutes les portes, toutes les frontières pour nous faire avancer.
Alors, il vous a guéri aussi, permettez-moi, il est important aussi d'en témoigner, de vos addictions, de vos dépendances. Vous êtes devenu abstinent, je crois, à toutes ces dépendances.
Ouais. Et cette abstinence me fait revivre. Et ça, c'est quelque chose que je dis à chaque fois. Non, je suis abstinence, je refuse ce verre. Voilà, je ne peux plus, en fait, je me suis coupé de l'addiction. Et pour moi, ça, c'est important.
Vous faites ce lien aussi, là. Je vous reçois dans ce studio de couper. On sent bien que vous tranchez.
C'est ça.
Et une prise de décision, c'est symbolique, c'est fort, là, chez vous.
C'est-à-dire qu'il y a comme un lien, il y a un fil. Le fil, il faut le couper, en fait. On peut plus, on peut pas guérir de nos addictions si on se permet de prendre un verre ou pas, quoi. Alors ouais, il y a des rechutes. Ça, c'est le schéma classique quand on veut vraiment devenir abstinent. Mais quand on a fini par atteindre le but, donc avoir cette force de refuser un verre, parce que ça, il y en aura. Tu veux pas un petit joint, tu veux pas un petit verre, et de dire non. Moi, je veux plus ça. Avant, j'étais comme ça, et puis voilà, maintenant, je suis devenu comme ça, je peux plus. Et parfois, les gens, ils vous croient pas, mais pour vous, c'est quelque chose qu'on peut faire. La force de refuser le verre, le joint, la raille, le machin, de dire non, ça y est, c'est terminé pour moi.
Quels sont vos outils, puisque vous êtes dans cette capacité aujourd'hui de transformation, baptisée au nom du Christ, où trouvez-vous cette force de pouvoir dire non, malgré les propositions qui seront faites, hein, et vous seront
données? En fait, le Seigneur, en m'attachant au Seigneur, finalement, je m'accroche au fait est que j'ai plus envie de le décevoir. Et du fait est que si je reprends un rail, si je reprends de l'alcool et tout, comme ça m'arrivait avant, si jamais je fais ça, j'aurai cette sensation finalement. Alors, on déçoit jamais trop le Seigneur. Je pense qu'il nous aime d'une manière on n'est pas capable de comprendre. Mais moi, en tout cas, je pense que si je faisais ça, je le décevrais, quoi. Et je peux pas décevoir Dieu. Et quand je vois, en fait, ce que les promesses de Dieu dans ma vie, je peux pas revenir à mes anciens schémas. C'est pas possible. Je peux pas continuer à détruire ma vie et même à détruire les promesses de Dieu sur ma vie. Il y a d'un côté la promesse de Dieu, le projet de bonheur qu'il a pour nous, et d'un autre côté le malheur que je me construisais. Et donc, prenant le plaisir que nous apportent les substances et le bonheur que nous apporte le Seigneur, je pense que le choix est vite fait quand on fait le tri. Moi, j'ai envie de vivre dans le bonheur, pas dans le plaisir.
Vous n'êtes plus dans la solitude aujourd'hui, vous êtes dans une vie fraternelle.
Tout à fait.
Et vous êtes entré dans la joie des enfants de Dieu.
Et une joie.
Les idées suicidaires, c'est terminé.
J'ai plus d'idées suicidaires et.
Vous avez été libéré.
Il y a une libération sur ça.
Ouais. Guéri. Est-ce qu'on peut parler d'une grande opération de guérison, même si la guérison s'opère jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier passage.
La guérison, elle s'opère toute notre vie. Mais il y a quand même eu un. Ce que je dis souvent, c'est il y a eu une guérison de ce qui était impossible pour moi de guérir humainement. Et toujours, on va dire, une sorte de cicatrisation de ce que moi, je suis capable de faire maintenant. Mais la guérison que le Seigneur a apportée pour moi, c'était ces grosses addictions aux drogues dures qui étaient humainement impossibles finalement à guérir. J'étais parti trop loin pour guérir de ça. Le Seigneur, il l'a fait pour moi.
Des addictions à la mission. Vous êtes ce témoin dans ce Vivante Église, une église vivante avec des témoins vivants Le Seigneur vient...
Vivant, c'est important ce mot.
Oui. Le Seigneur est venu quelque part vous récupérer. Vous étiez dans cette spirale infernale. Vous étiez dans cet enfer, sur cette terre. Et Dieu est grand. Il est plein de miséricorde, il est venu vous sauver de tous vos chaînes. On peut vous retrouver parce que vous allez y travailler, je crois, très sérieusement. La création de votre chaîne, la chaîne Jeunesse Debout pour Christ, avec une série qui s'intitule Rescapé des ténèbres.
C'est ça.
Voilà, et le projet aussi d'un livre, alors livre témoignage ou livre thématique ou livre témoignage et thématique.
Un peu des deux, je pense.
Un peu des deux. Donc, on peut vous retrouver sur votre chaîne Jeunesse Debout pour Christ et puis certainement un livre dans quelques mois. Merci, Georges Delory, de votre passage dans nos studios et dans cette émission de Vivante Église.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.